10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent tous les vendredis jusqu'à 11h sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bien, je commence cette émission en présentant toutes mes condoléances à Adil Farkan, à toute sa famille. Et on va parler de sa maman que vous avez bien connue, imam Abdelali.
Oui, le Hajja Kanza, rahmatullahi alayha, qu'Allah la couvre de sa miséricorde, qu'Allah lui accorde sa bénédiction, qu'il fasse de sa tombe un verger du paradis, qu'il lui accorde sa satisfaction, qu'il lui accorde, inshallah, un vaste paradis au plus haut niveau, c'est-à-dire dans Jannat al-Firdaus al-A'la, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah l'épargne des tourments de la tombe et lui épargne bien sûr les châtiments de l'enfer et qu'il éloigne de ses péchés comme il a éloigné l'Est et l'Ouest. Allahumma ba'id baynahu wa bayna khatayaha kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Je dirais en arabe, donc pour traduire un petit peu tout ça, Allahumma aghfir laha wa rahamha. Allahumma aghfir laha wa rahamha wa afiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha. Allahumma aghsilha bil ma'i wa thalj wa al-barad. Allahumma naqqiha min al-khataya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها اللهم قيها من عذاب النار وعذاب القبر. J'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances à Al-Hajj Ahmed Furqan, donc le papa, bien sûr à son fils, à tous ses frères et sœurs, de Adil, donc bien sûr je parlais de Adil, notre journaliste chouchou de Beurre FM. Al-Hajj Furqan, c'est pas une question de Adil, hein, si je parle d'elle aujourd'hui. C'est parce que c'est une grande femme qui a fait beaucoup de bien toute sa vie, qui a été une enseignante à la grande mosquée de Mantes-la-Jolie pendant plus de au moins une quarantaine d'années, de ce que j'ai souvenir, puisque je la connais depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je l'ai toujours connue comme étant une enseignante à la mosquée, qui a toujours vécu une vie très honorable, très respectable, et qui a fait en sorte de transmettre son héritage à beaucoup des générations qui ont suivi sur Mantes-la-Jolie, et notamment ses enfants, bien sûr. Je voulais donc pour cela donc faire un petit dua pour sa famille. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yu'azzima ajrahum wa an yusabbirhum fi musibatihim wa an yurzuq lahum as-sabr wa as-silwan. Qu'Allah accorde la patience et la consolation à toute sa famille et qu'il bien entendu couvre leur maman de sa plus grande et son immense miséricorde, inshallah tabaraka wa ta'ala. Voilà, nous sommes tous associés dans la tristesse avec cette mauvaise nouvelle, la mort de Al-Hajj Kanza, rahmatullah alayhi, qu'on n'oubliera jamais, inchallah.
Bien, et vous l'avez bien connue, hein, vous, imam
Abdelali. Oui, ce que je te dis, ouais, tout à fait, bien. Elle était très active dans la mosquée, moi-même, à l'époque où j'étais pendant 6 ans responsable des activités culturelles et même cultuelles à la mosquée, elle était très active avec d'autres femmes sur la partie féminine de la grande mosquée de Mantes-la-Jolie, qui aujourd'hui, on peut dire une grande mosquée, d'abord une mosquée de femmes. C'est une mosquée qui est essentiellement gérée, entretenue, où il y a une activité qui est très forte, représentée surtout par les femmes, et donc bien sûr Madame Kenza Furqan, qui a fait ce travail extraordinaire à la mosquée avec toutes ses sœurs. Voilà.
Bon, on est à quelques jours, imam Abdelali, du début du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant ce début du mois, hein? De quoi le musulman doit-il s'assurer?
D'abord, il doit s'assurer de ne pas avoir de dette de Ramadan de l'année précédente ou des années précédentes. Donc, s'assurer de ne pas avoir de dette. Ça veut dire que, normalement, en principe, un homme ou une femme, hein, souvent on se focalise sur les femmes parce que, bon, elles sont obligées, parfois, souvent beaucoup d'entre elles, de ne pas jeûner certains jours du Ramadan à cause de leur indisposition. Mais non, ça, c'est général, hein, y compris
donc,
des hommes.
S'assurer de rattraper les jours en retard.
Tout à fait. Et donc, si on ne l'a pas fait, de s'acquitter d'une fidia de 5 euros. C'est pas la peine de dire non, moi je vais attendre le Ramadan après le Ramadan pour rattraper le Ramadan de il y a 2 ans.
Mais là, il faut s'être acquitté du retard et de la fidia à quel moment
Avant le début de ce Ramadan. D'accord. C'est-à-dire avant du Ramadan, là, il faut que vous soyez donc totalement acquitté. Soit vous avez jeûné, vous avez rattrapé vos jours non jeûnés en jeûnant ces jours-là, comme le dit le Coran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Ceux qui sont malades ou en voyage peuvent ajourner leur jeûne à une date ultérieure, c'est ce que dit le Coran. Donc la date ultérieure, c'est courant de l'année suivante. Donc on n'attend pas des années avant de rattraper son jeûne. Et bien entendu, si on n'a pas pu jeûner pour x ou y raison, parce qu'on a une maladie par exemple chronique qui ne guérit pas, à ce moment-là, on verse la fidya conformément au verset du Coran qui dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ. Pour ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner pour des conditions physiques, eh bien, ils s'acquittent en versant la fidya, qui est l'équivalent d'un repas à un pauvre de 5 euros par jour non jeûné.
Alors, Imam Abdelali, nous allons accueillir Maître Hafiz, Chem Céline Hafiz, qui est recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous êtes le bienvenu sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour à vous et à vos auditeurs.
Bonjour. Alors, Maître Hafiz, beaucoup de communiqués pour annoncer la date du début du mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quel est le jour du début de ce mois ?
Alors, écoutez, c'est pas si facile que ça parce que c'est la première fois que les quatre fédérations et notamment la Grande Mosquée de Paris, on va aujourd'hui faire un calcul par rapport à deux méthodes. On a aujourd'hui, si vous voulez, considéré qu'il fallait absolument qu'on tienne compte à la fois du calcul scientifique, mais en même temps de garder le résultat de l'observation de la Lune, parce que nous avons fait une tentative, le CFCM, en 2013, où on avait annoncé à l'avance, selon le calcul scientifique, le premier jour du Ramadan, et la communauté à l'époque avait très très mal perçu cela et avait considéré que cette nuit du doute qui a un certain, une certaine alchimie qui fait que les familles attendent avec de manière conviviale avec les enfants, etc., cette nuit du doute en attendant le premier jour du Ramadan.
Donc c'est garder un certain suspense, c'était le charme du suspense un petit peu.
Absolument, c'était ce charme de suspense et on a été à l'époque interpellé de manière extrêmement vive par beaucoup de fidèles qui étaient venus à la mosquée en dénonçant cette méthode. Mais en même temps, au niveau de la Grande Mosquée de Paris, on estime que le calcul scientifique règle quand même beaucoup de problèmes, notamment pour les salariés qui peuvent s'organiser. Les mamans, tout le monde peut, en fait, en ayant une date suffisamment connue à l'avance, pour pouvoir s'organiser. Alors, les quatre fédérations s'est réunies déjà plusieurs fois, et puis la commission de théologie de cette coordination s'est réunie avant le 29 mars et a considéré qu'il fallait prendre en considération à la fois donc les résultats des travaux du calcul scientifique et de l'observatoire de la Lune. Et c'est pour cela que, sur ces méthodes, on a estimé que l'objectif était l'unité des musulmans, d'un côté, et puis faciliter l'organisation du début du jeûne. Et c'est pour cela que, donc, on a dit que, selon les données astronomiques, donc, il y aura d'abord le lundi, donc, 12 avril, à 2h 31, donc la naissance du croissant lunaire, selon le calcul scientifique, et par rapport à la nouvelle lune du mois béni de Ramadan, qui serait visible, à l'œil nu ou à l'aide d'un télescope, après le coucher du soleil dans plusieurs pays du monde. Donc nous estimons aujourd'hui, et c'est ce que nous allons maintenir quand même la nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris, donc le dimanche 11 avril, avec la permission d'Allah, que ça sera le mardi 13 avril, le premier jour du Ramadan. On n'a pas voulu nous pencher sur la question de l'Aïd, de la fête de l'Aïd. Je sais que certains considèrent que c'est le 13 mai, mais moi je préfère pour cela garder le suspense, que nous passions un mois du Ramadan dans la dévotion, dans la solidarité, dans l'unité, puis au moment voulu, on fera également la nuit du doute pour fixer le premier jour de l'Aïd. Je pense que c'est important quand même ce côté social qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est pour cela que cette combinaison, à mon humble avis, est une combinaison qui va pouvoir arranger les musulmans. Et le dimanche, 11 avril, donc nuit du doute, je suis en train d'organiser un certain nombre d'activités pour que les musulmans sentent qu'il y a quand même un suspense, qu'il y a quand même une autour de la mosquée et à l'intérieur de la mosquée une vie qui spirituelle qui est en train de se dérouler. On ne peut pas aujourd'hui en France, du jour au lendemain, considérer que le premier jour du Ramadan, c'est mécanique, il n'y a pas d'émotion, parce que notre religion, pour moi, c'est une religion qui est quand même de sentiments, qui est quand même une religion vivante, et on ne peut pas comme ça mécaniquement déclarer, parce que ça c'est facile aujourd'hui qu'on voit dans 5 ans que le premier jour du Ramadan en 2026 sera tel jour à telle heure.
Alors, Maître Hafiz, si on vous comprend, ça veut dire que on sait que ça va débuter le 13, mais qu'on va quand même garder la tradition de la nuit du doute du 11 pour garder un peu de suspense et pour l'annoncer de façon officielle. C'est ça qu'il faut comprendre ?
Absolument. Voilà. Absolument.
D'accord.
Absolument.
Mais ça démarre le 13.
C'est même pour ça que dans le communiqué de la mosquée de Paris, il utilise la conjugaison du verbe au conditionnel. Il ne dit pas « aura lieu le 13 », mais « devrait avoir lieu le 13 ». C'est bien. Je ne me trompe pas, maître.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Donc vous gardez le suspense du doute.
Alors, il restera ce suspense parce que nous estimons que la communauté musulmane a besoin encore de cette vie, comme je le disais tout à l'heure, de ce suspense. Oui. Vous imaginez quand même que la communauté musulmane, partout dans le monde, et en France en particulier, a toujours vécu ces nuits de doute avec beaucoup de joie. Les enfants qui vont commencer, peut-être pour la première fois de leur vie, le premier jour du Ramadan, se préparer, leur préparer des vêtements, leur expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles les musulmans dans le monde font le Ramadan. Moi, je trouve que ces aspects-là, sociaux, de la vie de tous les jours, est important et je souhaiterais quand même qu'on maintienne. Alors, pour trouver une solution, alors vous avez vu que dans les 4 fédérations, il y a notamment les musulmans de France qui plaident depuis des années.
Alors, on va donner le nom des 4 fédérations pour que tout le monde puisse bien comprendre, hein, maître.
D'accord. Alors, donc il y a la Grande Mosquée de Paris.
Ouais. C'est la fédération de la Grande Mosquée de Paris, puisque beaucoup d'auditeurs ne savent pas que la Grande Mosquée de Paris est en elle-même une fédération de plusieurs centaines de mosquées qui adhèrent à une organisation qui est associée, dont le leadership est la Grande Mosquée de Paris.
Absolument. Puis alors, le Rassemblement des musulmans de France, qui est présidé par Anouar Kibibesh, qui est un ancien président du Conseil français du culte musulman, la FAYAKA, qui est donc une organisation qui représente l'islam subsaharien.
Donc c'est les Comores, les Antilles, voilà. L'Afrique subsaharienne et les Antilles.
Absolument. D'accord. Voilà. Et nous avons les musulmans de France, donc ex-UOIF, qui est aujourd'hui présidé par Amal Sfa.
Juste une question, maître Serhan. Maître Hafiz, excuse-moi. C'est pas grave. Parce que tout à l'heure, il était avec nous, maître Serhan.
C'est pas grave.
De toute façon, c'est deux avocats qui sont aussi bons l'un que l'autre.
C'est pas un problème.
Allahumma barik. Je disais, vous êtes doté, vous, à la mosquée de Paris, d'un conseil d'imam. Il y a un conseil d'imam à la mosquée de Paris qui décrète le mode la méthode de détermination du début et de la fin du Ramadan. Que dit-il ce conseil des imams dans votre grande mosquée, grande mosquée de Paris?
Ce sont eux qui ont participé donc à la commission théologique de la coordination, puisque chaque fédération, donc des 4 fédérations, ont envoyé un imam, des experts. Nous, on a quelqu'un qui est spécialiste dans la question donc du calcul scientifique. Nous avons réuni donc tous ces ulamas, toutes ces personnes qui, c'est comme on les dit, des sachants. Alors je vous dis, alors vous devez le savoir que depuis déjà près de 6 mois, les musulmans de France et la Fédération de la Grande Mosquée de Paris travaillons sur le calendrier des heures de prière, puisqu'aujourd'hui les musulmans de France et la Grande Mosquée de Paris ont des calendriers. Et puis il y a une problématique au niveau
avec une divergence souvent.
Absolument. Divergence, c'est au niveau donc du calcul. Notamment, elle apparaît surtout, cette divergence, pour la première prière du matin et la dernière nuit de la dernière pardon prière du soir de l'Aïcha. Donc, Subhou l'Aïcha, il y a une différence assez notoire, importante, parce que musulmans de France font leur calcul sur la base de 12 degrés. Alors que la Fédération de la Grande Mosquée de Paris fait son calcul sur la base de 18 degrés.
Mais est-ce que ça veut dire que cette année, il va y avoir fusion des deux calendriers?
Alors, on est en train de travailler là-dessus. Et nous allons même, il y a une commission qui va se déplacer à Lyon dans les jours qui viennent pour aller alors sur un mont, je ne me rappelle plus le détail, excusez-moi, mais ce sont tous des experts dans ce domaine qui se sont réunis, qui vont aller sur place, qui vont passer une ou deux nuits sur place pour faire les calculs et pour voir quel est le degré le plus proche de la réalité.
D'accord.
Alors aujourd'hui, la dernière réunion d'experts qui s'est tenue à Ankara considère que c'est le 18 degré qui est le plus proche, mais on voudrait vérifier les choses. Et moi, ce que j'ai donné comme orientation, je veux que ce soit un calcul qui se fasse en France, parce que nous construisons l'islam de France et nous devons vraiment tenir compte des données scientifiques en France, voire peut-être en Europe, mais il faut arrêter de prendre des références dans les autres pays du monde.
Mais Maître Hafid, vous êtes en train de nous dire que, parce qu'on a tous déjà nos calendriers du mois de Ramadan, là, donc ça veut dire
ils vont pas changer.
Ils vont pas changer. Les horaires vont pas changer d'ici là. D'accord.
Non, ne vous inquiétez pas. Ça fait déjà 6 mois qu'on travaille, on veut faire un travail sérieux. On a pris vraiment des gens qui connaissent bien la partie et on leur a demandé que ce soit à moi, que ce soit à moi, nous avons demandé à ces experts de prendre le temps parce que c'est quand même difficile d'essayer de rapprocher du 12 au 18 parce qu'il faut savoir, par exemple, que le rassemblement des musulmans de France, c'est le 15 degrés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en France, on utilise le 12, le 15 et le 18 degrés. Donc, il faut essayer qu'on trouve dans le consensus, dans la fraternité, la possibilité aujourd'hui de faire des calculs qui puissent d'abord renforcer l'unité des musulmans, et il serait stupide que des musulmans fassent la prière à une heure alors que les autres font à une autre heure. Il faut qu'on essaye, c'est comme cela qu'on construit
l'islam
de France.
Alors, ma mémoire...
On va faire une page de pub, et Imam Abdelali, si vous voulez bien, vous restez avec nous, Maître Hafiz. Et on parle de ce mois de Ramadan qui approche, c'est l'islam au présent, jusqu'à 11h, ce Beurre FM.
Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM.
Voilà, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan, avec l'imam Abdelali Mamoun et Maître Chemseddine Hafiz, qui est avec nous, recteur de la Grande Mosquée de Paris. On parlait des calendriers tout à l'heure, des différents calendriers qui existent. Ça veut dire que pour cette année, Maître Hafiz, les calendriers continueront à être plusieurs, en fait, pour ce Ramadan, pour ce mois de Ramadan qui arrive.
Oui, en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 6 mois que nous travaillons. On avait espéré pouvoir arriver au résultat d'unir nos calendriers. Ça n'a pas été possible. Il y a eu énormément d'événements qui ont fait que les réunions, à un moment donné, n'ont pas été possibles. Mais en tout état de cause, pour cette année, nous avons quand même 4 fédérations qui se réunissent ensemble, qui acceptent le fait qu'il y ait une combinaison entre les deux principes pour déterminer le premier jour du Ramadan, je pense que c'est une avancée notable. Laissons par la suite que le Ramadan se termine et nous allons nous pencher sur les heures de prière. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura des résultats positifs.
Alors, vous nous avez annoncé tout à l'heure la tenue officielle le 11 avril, donc le dimanche 11 avril, de la traditionnelle nuit du doute à la mosquée de Paris. Est-ce que c'est le CFCM qui va se réunir lors de cette soirée?
Votre question est un peu à double tranchant, vous savez.
Vous voulez que je sois plus précis dans ma question?
Non, j'ai compris, mais pour vos auditeurs, il faut leur dire que depuis le 17 mars, la Grande Mosquée de Paris ne fait plus partie du CFCM. Et donc, c'est la Grande Mosquée de Paris, et de toutes les manières, la Mosquée de Paris est un lieu, comme le disait tout à l'heure l'imam Mamoun, la Grande Mosquée de Paris appartient aux musulmans, et j'invite, et si le CFCM, tel qu'il est aujourd'hui composé, souhaite participer, moi je n'ai jamais été dans l'exclusion et le rejet de l'autre.
Il est invité bien sûr.
Par votre biais, je l'invite officiellement, le président du CFCM, à venir, s'il le souhaite, à la Grande Mosquée de Paris, pour que nous travaillions ensemble pour l'unité des musulmans de France.
D'accord. À partir de quelle heure? Parce que vous savez que nous aussi, c'est le traditionnel rendez-vous des auditeurs. Moi, j'ai envie de dire que nous, c'est le jour de l'année où on fait le plus d'audience, parce que les gens écoutent le doute et ils attendent que le doute soit levé.
Alors écoutez, comme d'habitude, ce sera la réunion commencera à 18h30. Pour cette année, exceptionnellement, et comme je disais, du fait de cette double combinaison, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un programme qui commence avant l'annonce, c'est-à-dire vers 17h30, 18h, nous allons réunir des chouyours qui vont parler donc d'abord de cette nuit de doute, parler du ramadan, parler de la situation particulière. Ça va être le deuxième ramadan qui va être vécu par les musulmans pendant la pandémie. Et donc, nous avons beaucoup de questions qui ont été posées par les musulmans. Je vous donne un exemple. Est-ce que si je fais mon vaccin pendant le ramadan, ma première dose ou la deuxième dose, est-ce que le jour où je fais mon injection, est-ce que ce jour-là est invalide et je dois le refaire? Il faut que les imams puissent donner les réponses aux questions légitimes que se posent les musulmans. Il ne va pas y avoir de salat tarawih, puisque en principe, le couvre-feu va être maintenu à partir de 19h.
Donc, Maître Hafiz, sur la question du vaccin, hein, on était hier avec un des membres de France Fatwa, par exemple, qui disait que ça n'invalidait pas. Donc il y a déjà, sur cette question de la vaccination, des fatwas qui sont sortis.
Alors, moi, je ne sais pas de cette loi, mais j'ai fait un communiqué, parce que j'ai réuni la commission théologique de la Grande Mosquée de Paris.
Oui.
Et nous avons fait un communiqué dans lequel nous expliquons que la santé passe en priorité. C'est un acte de foi, un acte de dévotion, le fait de préserver sa santé. Et à ce titre-là, nous savons pertinemment, et là je parle sous le contrôle de Cheikh Mamoun, que le fait d'avoir une injection intramusculaire qui n'apporte pas des fortifiants ou quoi que ce soit, qui pourrait dans ce cas invalider le jour du ramadan, mais là c'est un vaccin et il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire, votre journée est valide sans aucune difficulté.
Bien entendu, maître, l'unanimité, voire même, je vais dire, une majorité écrasante d'imams et de théologiens considère que à partir du moment où ce qui est ingéré dans le corps humain ne passe pas par une voie naturelle, que sont la bouche, le nez et les parties intimes, cela n'annule pas le jeûne, et notamment si ce qui est ingéré dans le corps n'est pas nutritif, puisque là il s'agit d'un produit médicamenteux et non pas nutritif. Absolument. Comme par exemple ceux qui ingéreraient par la peau des vitamines, etc. Là il peut y avoir débat. Mais là en l'occurrence il s'agit d'un médicament, donc il y a une majorité écrasante, je dirais, si c'est pas l'unanimité, des savants qui considèrent que cela, bien sûr, n'annule pas le jeûne. Donc on n'a même pas besoin d'évoquer la nécessité, puisque il n'y a pas besoin de cette nécessité, puisque même en cas de non-nécessité, une injection intraveineuse médicamenteuse n'annule pas le jeûne du ramadan. Wallahu a'lam.
Alors, absolument, mais oui. Pardon. Non, tout simplement, pourquoi moi j'ai tenu à faire ce communiqué, parce que nous avons reçu énormément d'appels de fidèles qui se posaient ce type de questions. On a attiré mon attention et je ne vous cache pas que même la Direction Générale de la Santé, j'ai eu un long entretien avec un responsable du ministère de la Santé qui m'a dit qu'il y avait dans certains centres de vaccination des échos qui faisaient entendre qu'il y avait des musulmans qui émettaient des réserves quant à la vaccination. Et donc nous avons voulu enlever tout doute et le dire, le proclamer fortement pour que les musulmans n'aillent pas, je dirais, de manière contrainte à faire cette vaccination. Il n'y a aucun problème. Votre foi musulmane n'est pas du tout remise en cause à ce moment-là précis.
Maître Hafiz, le président de la République, Emmanuel Macron, vous a rendu récemment visite à la mosquée de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous avez parlé et qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'organisation de l'islam de France ?
Écoutez, il est venu, c'était vraiment une visite impromptue. Hein. Beaucoup d'observateurs ont considéré qu'il y avait eu un accord entre lui et moi.
Vous n'étiez vraiment pas au courant ? Vous l'avez su à quel moment qu'il allait venir ?
C'est des responsables de la mosquée qui sont rentrés dans mon bureau et qui m'ont dit à le président qui est devant la porte.
Ah vraiment ?
Oui, franchement, écoutez, on a beau dire que c'est pas possible que le président de la République, j'ai parlé par la suite avec ses plus proches collaborateurs, eux-mêmes étaient surpris par la démarche. Alors bien évidemment, il est venu, c'est un homme politique, il est venu pour une raison particulière, c'est certain, et puis donc On est resté quelques instants ensemble dans mon bureau et on a échangé. Alors, il veut vraiment que le Conseil national des imams soit mis en place rapidement parce qu'il considère que ça ferait vraiment partie de la construction de cet islam de France que tout le monde appelle de ses voeux. Il sait pertinemment que c'est extrêmement compliqué, notamment puisqu'il y a aujourd'hui 3 fédérations qui n'ont pas signé la charte des principes pour l'islam de France. Il m'a un peu parlé de sa relation avec le président Erdogan et la situation qui se pose. Mais voilà, donc et puis en même temps.
Mais qu'est-ce qu'il vous a dit sur la relation? Parce que visiblement, les relations entre justement la Turquie et la France vont vers un mieux, visiblement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'on peut envisager une visite du président en Turquie ou?
Écoutez, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne m'étendrai pas sur les questions politiques. Moi, ce qui m'intéresse le plus, est-ce que les fédérations turques, notamment le CCMTF, parce que je suis vraiment chagriné, triste que le Conseil consultatif des musulmans turcs de France, qui est une organisation solide, qui fait partie, je dirais, de cet islam turc.
Alors c'est le comité de coordination des musulmans turcs de France, il me semble. C'est bien ça?
C'est
CMTF
oui,
turc.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Vous avez
oui.
dit commission...
Non. Voilà. Oui, j'ai dit mon conseil.
Comité de coordination des musulmans turcs de France, donc dirigé par Monsieur Brahim Alsi, aujourd'hui actuel président.
Oui, et que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il est venu me rendre visite. J'ai rencontré un responsable de l'ambassade de Turquie qui est venu déjeuner à la mosquée de Paris. On a échangé sur toutes ces questions. Et bien évidemment, moi, mon but, c'est que l'islam turc, l'islam de plusieurs milliers de citoyens français d'origine turque soit représenté dans l'instance représentative et que le fait qu'il ne signe pas la charte, alors qu'on était pratiquement d'accord sur l'ensemble de ce qui contenait la charte, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Alors que le 16, Brahim Alsi, dans le bureau du ministre, était tout à fait d'accord pour signer cette charte, et le 18, malheureusement, il n'était pas parmi nous. Donc moi, j'œuvrerai encore pour essayer de réunir le CCMTF autour de nous. Si ça serait tant mieux, alors vous dites qu'il y a un léger mieux, je l'espère de tout cœur, et surtout, moi je souhaite quand même que l'islam de France ne soit pas tributaire des relations diplomatiques de la France avec d'autres pays. Parce que sinon, ça serait très compliqué si demain, la France n'a pas de bonnes relations diplomatiques avec le Maroc ou l'Algérie. Vous imaginez la situation qui serait quand même très problématique de l'islam de France. Donc aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a bien évidemment une influence, mais il faudrait quand même que, parce que le CCMTF, aujourd'hui, à 150 imams détachés qui travaillent sur le territoire national, et il faudrait qu'on trouve des solutions, parce que 2024, c'est demain, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on travaille sur la formation des imams, et moi j'ai beaucoup travaillé avec notamment l'ambassade de Turquie pour essayer de faire en sorte que l'Institut Razali, qui dépend de la Grande Mosquée de Paris, puisse d'une manière ou d'une autre participer à la formation des imams même qui sont franco-turcs.
Alors justement, vous faites une bonne transition, maître Hafiz. Justement, aujourd'hui, le CNI, où en est-il? Il est en stand-by.
Le CNI,
c'est le Conseil national des imams qui est donc censé être mis en place par le CFCM, qui, comme tout le monde le sait aujourd'hui, est une organisation disloquée par le départ des 4 fédérations dont fait partie monsieur donc maître Hafiz. Et donc, ce Conseil national des imams, est-ce qu'il est suspendu jusqu'à nouvel ordre? Où est-ce qu'on en est avec ce conseil?
Non, alors, je tiens à apporter une précision parce que vous venez de dire que le CFCM devait créer le CNI. Le CFCM n'est pas, lui, l'initiateur de la création du CNI. Le Conseil national des imams, c'était la volonté des fédérations pour constituer ce CNI. Bien évidemment qu'il y a eu des perturbations à partir du moment où 4 fédérations quittent le CFCM, mais je pense que le CNI doit être créé.
Donc,
il faut absolument qu'il aujourd'hui, cette institution qui appartient ni aux fédérations ni à personne, parce que c'est ce qui va constituer le futur je dirais, des imams de France. Et à ce titre-là, il faut absolument que ce CNI, d'abord et avant tout, porte une adhésion.
Alors, une dernière petite question concernant ce CNI. Aujourd'hui, beaucoup d'imams donc sont un petit peu irrités par le fait qu'on impose encore une fois la désignation des membres du CNI par le haut et que l'on consulte pas par la base les imams. Est-ce que vous pensez que quand même les imams, pour qu'ils soient justement actifs avec ce CNI, qu'ils se sentent représentés par le CNI, ne pourraient pas d'une certaine manière être concertés d'une manière ou d'une autre, de manière à ce qu'ils puissent cautionner ce nouveau Conseil national des imams?
Écoutez, d'abord, moi, je réfute cette idée d'islam d'en haut, d'islam d'en bas. Ça n'existe pas. On essaye de discréditer certaines personnalités en disant que c'est l'islam d'en haut. L'islam, c'est des mosquées, c'est des musulmans qui vont, qui exercent leur culte, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes dans une représentation du culte musulman. On n'est pas représentant de la communauté arabo-musulmane ou maghrébine ou quoi que ce soit. C'est le culte musulman. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'islam d'en haut, d'islam d'en bas.
Non, ce que je veux dire, c'est les fédérations qui sont fondateurs décident de nommer les représentants du CNI au lieu de concerter avec la base. C'est ça que je veux dire.
Non, ils ne nomment personne. Les fédérations ne sont pas là pour nommer quiconque. D'abord, il fallait discuter du statut juridique du CNI. D'accord. Au début, le CNI devait être une instance informelle qui s'appuierait sur le CFCN. Mmh. Aujourd'hui, avec ce divorce, il est bien évidemment que nous avons réfléchi, nous avons décidé que ce serait une association loi 1905, comme le consistoire, comme toutes les instances cultuelles. Premier élément. Deuxième élément, ce sont les imams qui vont constituer, eux, le CNI. Les fédérations ne seront pas présentes dans l'organe de gestion. Ils sont là parce que chaque fédération que vous êtes en train de citer dispose de centaines de mosquées. Cela veut dire d'imams. Moi, j'ai des imams. Donc, ces imams, moi, je souhaiterais qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils puissent être agréés, etc., etc.
Bon,
seule condition, et là où il y a une difficulté, la seule condition que moi, personnellement, je considère comme capitale, c'est qu'il faut être signataire de la charte des principes pour l'islam de France.
C'est ça, le CNI. Alors, monsieur le recteur, on arrive...
Une voie républicaine.
Voilà, on arrive à la fin. Vous serez en direct le dimanche 11 avril, si Dieu veut, donc, pour annoncer le début du mois de Ramadan. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup. Merci, Cheikh Mamoun. Merci.
Barakallahu fik, Astad. Allah yahafdak.
Barakallahu fik. À bientôt.
Merci. Allah jazikoum khairan pour le souci que vous avez pour les musulmans.
Merci beaucoup, cher frère. À bientôt, Inch'Allah.
Voilà. Et dans un instant, les auditeurs de Beurre FM ont la parole et posent leurs questions concernant le Ramadan en 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et on est à quelques jours du mois de Ramadan, Imam Abdelali Mamoun. Je vous rappelle qu'on vous retrouvera tous les soirs pendant ce mois de Ramadan, 30 jours. Comme tous les ans, on aura l'ADEN en direct sur Beurre FM.
Alors, nous, la mosquée, la Beurre FM, nous avons depuis, de manière traditionnelle, décidé toujours de suivre le calendrier de la mosquée de Paris. Pourquoi ? Parce qu'en suivant le calendrier de la mosquée de Paris, d'une certaine manière, on suit le calendrier aussi des autres, puisque c'est le plus exigeant des deux. Il est sur 18 degrés. Alors, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit, là, on parle de l'heure de l'Fajr, c'est-à-dire à quelle heure on détermine l'aube, c'est-à-dire le moment où on ne doit plus manger. On ne doit plus manger la nuit et que débute la journée du Ramadan. C'est ce qu'on appelle en français l'aube. En arabe, ça s'appelle al-fajr, qui est cité dans le Coran, dans le verset de Surat al-Baqarah, où Dieu dit « Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abiyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr ». Donc le mot « fajr » est bien cité dans le Coran comme étant l'heure butoir où chaque musulman doit arrêter de manger et débuter son jeûne. Sauf que cette heure de l'fajr, c'est quoi? C'est la vision de commencement où est-ce que des hommes sur Terre peuvent constater des rayons blancs émanant du soleil qui donc envoie des rayons dans le ciel alors qu'il se trouve lui à 18 degrés derrière l'horizon. Donc à une position très éloignée dans le temps, c'est-à-dire très tôt le matin. Donc c'est pour cela que si on compte plus de 33 minutes environ, ou 35 minutes plus tard, quand le soleil ne se trouve que seulement qu'à 12 degrés de l'horizon, eh bien on passe au calendrier de l'UIF, qui lui autorise de manger jusqu'à cette période-là. Mais là, le risque, c'est que si cette heure n'est pas valable, on risque que notre jeûne ne soit pas valable. Alors que si tout le monde commence à 18 degrés, eh bien on est sûr que notre jeûne sera valable, puisque on n'aura pas attendu jusqu'à 12 degrés ou 15 degrés ou 18, ça sera 18 degrés qui sera pour éviter tout risque d'invalidation de notre jeûne. Il est clair que moi je suis pour que ces deux calendriers qui existent aujourd'hui, celui de l'UIF, nouvellement musulman de France, MF, et celui de la mosquée de Paris, se mettent d'accord pour un degré de position du soleil derrière l'horizon. Moi je suis plutôt pour aller la mettre ça au milieu, c'est-à-dire couper la poire en deux et de le positionner à 15 degrés. Philippe, tu sais que historiquement, moi quand j'étais petit, le seul calendrier qui existait, c'était celui de Sheikh Hamza Boubakar, qui avait été donc mis en place dans les années 70, qui s'était basé sur 15 degrés.
À l'époque où il était recteur de la mosquée de Paris?
Oui, à l'époque où il était. Et c'était le seul. Tout le monde suivait ce calendrier-là. Il n'y a jamais eu de problème. C'est après l'avènement, quand Dalil Boubakar est arrivé, donc le fils de Sheikh Hamza, qui est devenu recteur de la mosquée de Paris, a décidé de le changer à 18 degrés au lieu de 15. Donc de là, l'UIF a réagi et a créé son calendrier à 12 degrés. Ce qui donc nous fait trois calendriers, un à 12, un à 15 et un à 18. Donc moi je dis, pour l'instant, on suit celui de la mosquée de Paris. Et puis en attendant que les deux organisations se mettent d'accord pour que tout au long de l'année, nous n'ayons qu'un seul mode de détermination de l'aube, de l'al-fajr, qui est, inshallah, qui sera inshallah de 15 degrés.
Alors nous avons Fadela qui nous appelle de Grenoble. Imam Abdelali, bienvenue Fadela.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Bonjour
Fadela.
Imam, je vais te soucier quand on a un déroulé puis sur 140 km de Grenoble dans le Habs. Ok, Karas Salma, où j'ose aller à Storki, ça me dit.
Madame, si vous voyagez de chez vous, de Grenoble jusqu'à Rouen, et donc ça fait 140 km, le trajet...
Oui, parce que je vais à 6h du matin, je reviens à 8h du soir.
D'accord. Eh bien, écoutez...
Non.
Donc, si vous pouvez faire le Fajr à la maison tranquillement, Rak'atayn, avant de sortir de chez vous, Salé Rak'atayn le Fajr. Voilà, Salé le Fajr Rak'atayn, ou Ba'at Subh Rak'atayn. Voilà, mais de toute façon, ça c'est comme tout le monde, hein. Même que vous soyez chez vous ou en voyage, le Fajr il bouge pas, il change pas. Le Fajr rak'atayn ou salat subh muraha rak'atayn li hiya al farida jahran. Voilà, donc ça on arrête de parler ça. Maintenant baqina ad-dhuhr wal 'asr.
Ad-dhuhr.
خليني نتكلم madame, ana na'tik el jawab. Je vais vous expliquer la réponse. Imam, comment
t'aïch?
Sur le trajet ou bien quand vous arrivez, quand vous arrivez à destination à Rouen, si vous pouvez trouver un endroit où vous pouvez.
Non, je peux pas, je peux pas.
Madame, écoutez, laissez-moi terminer. Soit vous cherchez un endroit où vous pouvez prier Dhuhr Raka'atayn et tout de suite après vous priez l'Asr Raka'atayn. Ce qu'on appelle vous pratiquez Al-Jam'u Al-Qasr. C'est-à-dire à la fois vous rassemblez vos prières et à la fois vous diminuez la quantité d'unités. C'est-à-dire de combien de Raka'at au lieu de 4 vous faites que 2 Raka'at. En même temps, soit à l'heure de Dhuhr, c'est-à-dire soit vers 2h ou 3h ou 4h, soit à l'heure de l'Asr, c'est-à-dire vers 5h, 6h, 7h, même avant le coucher du soleil. Il faut que vous ayez prié Dhuhr al-Asr avant le coucher du soleil. Si vous n'arrivez pas à trouver un endroit tranquille pour faire votre prière dans les postures prévues dans la religion, c'est-à-dire salib, ruku', sujoud, avec l'inclinaison, la prosternation, si vous n'arrivez pas à trouver les conditions nécessaires pour pratiquer votre prière convenablement, eh bien vous la faites assis sur votre chaise dans votre voiture. Mais ça, si je dis...
Mais dans... j'ai pas de voiture, je prends le train, moi.
D'accord.
J'ai pas de voiture, je prends le train et bus.
Vous le faites dans votre train, dans le train.
Dans mon train.
Voilà, vous essayez de vous orienter vers le Qibla.
Sur la chaise.
Dans la mesure où vous ne trouvez pas d'endroit pour faire la prière.
Non, il n'y en a pas. Imam, il n'y en a pas.
Frère, il y a les ta'arfi. Anna, moi, je vous donne ce qui est possible.
Dans le train, je peux la faire dans le train.
Allahumma barak. Eh bien, khalas. Inti salli fi salli. Jalsa fi l'kursi ta'ak. Wallahi sahel alik.
Eh,
alors, je rappelle que cette fatwa-là concerne madame, pas tout le monde.
Je dors aux autres.
فوالا ركعتين في الظهر وركعتين العصر.
والمغرب
لما فوالا تلحق الدار صلي المغرب العشاء. Tout à fait. Quand vous rentrez à la maison, vous priez le Maghrib et l'Aïcha.
Bon, spécial pour Fadela. Merci pour votre appel, Fadela. On a Fatima qui est avec nous au 01 53 48 3000. Fatima, bienvenue.
Bonjour, monsieur Philippe. Salam alaikum, imam.
Wa alaikum salam.
Imam, je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question sur Zakat al-Mal.
Pourquoi pas?
Oui, on est en démocratie. Je crois qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est la liberté d'expression.
D'accord, ce que vous avez dit sur le ramadan, moi j'ai dit.
On a signé la charte. Non, par contre, on a signé la charte.
Par contre, Fatima, vous n'avez pas le droit de gruger au standard. Hein.
D'accord. Allez, bismillah, voilà. Fatima.
D'accord. Nous, Razlik, on a ramassé de l'argent pour acheter un bien en Algérie. Depuis 2019, on croyait qu'on allait partir en 2020 en Algérie, mais on n'a pas été à cause du Covid. Alors, le mail, c'est-à-dire ça fait passer une année.
Oui.
Est-ce que je peux... Hakani Sab, je ne sais pas c'est combien.
Mais madame, je pense que si vous voulez acheter une maison, c'est que vous avez largement atteint le seuil du Nisab. Donc, vous êtes concerné par la zakat. Et la deuxième condition, qui est le fait que cet argent soit en votre possession depuis plus d'un an, vous l'avez là encore une fois rempli cette condition.
D'accord.
Donc, vous êtes donc assujetti à la zakat. Je rappelle à nos auditeurs, pour c'est être assujetti... Voilà, pour être assujetti à la zakat, ce n'est pas d'avoir un salaire que vous dépensez tous les mois, c'est d'avoir une somme d'argent que vous avez. Vous permettez.
Eh ben, Fatima, elle fait assistante de l'imam.
Voilà, assistante, secrétaire. Je vais l'embaucher, Fatima. Mais c'est ce que vous dites, c'est vrai. Mais bon, Inch'Allah, si on le dit ensemble, les auditeurs ne vont pas l'entendre. Donc, je répète à nos auditeurs que pour être assujetti à la zakat, il faut avoir de l'argent qu'on a thésaurisé pendant au moins un an. C'est ce qu'on appelle en arabe al-hawl. An-yahoul alayh al-hawl. Et il faut que cet argent ait atteint le nisab, c'est-à-dire le minimum qui est de la valeur que vaut 85 grammes d'or. 20 mithqalan min dhahab. 20 mithqal min dhahab, al-ulama qaddaruh bi 85 grammes ta dhahab. 20 mithqal, c'est une mesure arabe ancestrale qui a été évaluée aujourd'hui à 85 grammes d'or. 85 grammes d'or, moi je l'ai calculé il y a 3 jours à 42 € le gramme, 42 000 € le kilo. Donc c'est, de toute façon, vous divisez par 1000, c'est pareil. Ce qui fait à 85 grammes, 3 670 €, le nisab. Que vous devez utiliser, qui est le minimum, le seuil minimum. Attention, ce n'est pas l'argent en plus des 3670 que vous devez vous acquitter de la zakat. C'est sur l'intégralité de l'argent que vous avez mis de côté, que vous avez ce qu'on appelle en français thésaurisé. Thésaurisé, ce qu'on appelle en arabe al-kenz. Qala ta'ala alladhina yakinizuna al-dhahaba. Donc ceux qui thésaurisent l'argent et qui ne s'acquittent pas de la zakat sur le sentier d'Allah, donc c'est un verset du Coran, eh bien sont assujettis à un châtiment douloureux de la part de Dieu parce qu'ils n'auront pas accompli ce troisième pilier de l'islam qu'on appelle la zakat. Mais bon, inshallah, il y aura autre moment pour parler de la zakat.
C'est-à-dire, j'ai de la famille qui sont pauvres. Est-ce que je peux le garder pour partir en Algérie ou je le fais ici en France?
Si vous pouvez trouver quelqu'un en Algérie qui va verser la zakat à votre place et puis après vous les rembourserez plus tard, c'est bien. C'est mieux. Sinon, si vous connaissez quelqu'un en France qui est pauvre, vous leur donnez aux gens qui sont dans le besoin en France. Et Dieu sait combien il y en a beaucoup aujourd'hui en France qui sont dans le besoin. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer cet argent-là au bled.
Voilà, Fatima, merci pour votre question. On a 3 minutes pour accueillir Rabat qui est avec nous. Rabat, bienvenue.
Ah oui, bonjour Philippe.
Naam, salam alaikum, akhi Rabih. Bismillah, faddal, soualak. Vite, vite.
Wa alaikum salam, faddal, akhi. Moi, j'ai acheté une maison au bled. En fait, un appartement. J'ai acheté un appartement au bled, mais avec du crédit, cher.
D'accord.
J'ai fait un crédit au bled, la CNEP. Voilà, je voudrais savoir.
Donc, tu fais les choses et après, tu poses les questions, c'est halal ou pas?
Non, mais
pas sérieux, non. Soit tu attends de poser la question, est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire, et après ensuite tu le fais ou tu le fais pas. Mais que tu le fais et ensuite tu poses la question à quelqu'un, non, c'est pas sérieux. Dieu dans le Coran dit, de toute façon, ala kulli hal, andana ayya li hiya tahal mushkila, qala ta'ala fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Si vous vous repentez, vous aurez donc droit à votre capital. Vous ne subirez ou ne commettrez aucune injustice, dit Dieu dans le Coran. Donc à partir de là, ce que tu as acheté, si tu peux t'en débarrasser, tant mieux. Si tu ne peux pas t'en débarrasser, tu payes. Et puis tu ne recommences pas. Tu as la ferme intention de ne pas refaire ce genre d'erreur qui est ce qu'on appelle un des 7 péchés capitaux, qu'on appelle pratiquer l'usure, pratiquer ce qu'on appelle la consommation de riba. قال تعالى والذين امنوا ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين.
Voilà Rabat, ce que l'imam pouvait vous dire. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, vous pourrez appeler l'imam d'ailleurs.
Tout à fait. Donc hors antenne, vous pouvez m'avoir en privé sur mon téléphone portable qui, je rappelle, est gratuit, mais bien sûr vous n'êtes pas sûr de m'avoir tout de suite. Donc n'hésitez pas à me rappeler périodiquement jusqu'à ce que vous arrivez à me joindre au 06 29 25 35 00. En souhaitant, Inch'Allah, que Allah nous permette d'atteindre ce mois du Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa taqabbalhu minna ya arhamar rahimin. Un dernier hommage à Al-Hajja Kenza. Rahmatullahi alayhi. Qu'Allah la couvre de sa miséricorde. Et, qui donne la consolation et la patience à sa famille, Inch'Allah.
Voilà. Et bien sûr, toute l'équipe.
Un gros bisou à Adil aussi,
voilà,
au passage.
Toute l'équipe de Beurre FM se joint à vous, hein, Imam Abdelali. Mm. Et on voit un gros bisou à Adil. Dans un instant, ce sont vos petites annonces solidaires et vous pourrez les passer au standard au 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.